Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan et vous écoutez Creepy Story. Bienvenue dans ma crypte. Vous vous apprêtez à écouter l'épisode 40, le dernier épisode de la saison 2 de Creepy Story. Au programme de ce soir, je vais vous raconter pas moins de 4 histoires pour bien finir cette saison, mais aussi cette année. Sans plus tarder, commençons avec le premier conte. Je l'ai intitulé « Le navire ». Il était à l'arrière de la barque, assis, le dos courbé, ses pieds nus baignés dans quelques centimètres d'eau, stagnant dans le fond de l'embarcation. Il bougeait ses orteils pour sentir le liquide entre chacun d'eux. Ça lui faisait du bien, de tant que l'eau était à la bonne température pour être agréable. Il releva la tête et regarda devant lui en faisant un mouvement panoramique. L'océan sur lequel il dérivait était calme. Le ciel aux nuages légers se parait de rouge, de rose et d'orange. L'air était rempli d'embrun iodé. À part le clapotis de l'eau, il n'y avait pas d'autre son aux alentours. Pas un oiseau non plus dans le ciel. Il regarda le fond de l'eau pour n'apercevoir que des ténèbres. Une eau sombre et infinie. Alors il entendit un bruit de chaîne derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il aperçut le grand et majestueux personnage à la capuche couleur de la nuit. Il tenait une perche dans ses mains et faisait avancer la barque sur cette mer d'huile. L'homme assis essaya de lui parler, mais l'immense créature sans visage ne lui répondit pas. Celui sous la capuche arrêta le petit bateau flottant et tendit à l'homme 2 pièces d'étain et d'or, frappées d'un ruban de Moebius. Sans même prononcer un seul mot, il fit comprendre à l'homme qu'il devait les mettre sur ses yeux. Ce qu'il fit instinctivement, sans se demander pourquoi. Par ce geste, il vit la voiture. L'enfant à vélo, les tonneaux pour l'éviter. Les bouteilles d'alcool vides, qui tourne avec la voiture, les bris de vitres et les hurlements. Puis à travers les pièces métalliques, il vit de nouveau le paysage sur lequel il flottait. Cette mer sombre et inconnue, ce ciel reposant et calme. Il savait qu'il devait continuer à naviguer droit devant pour un ultime voyage à bord de ce qui allait devenir pour lui son dernier navire. Vogue, vogue vers ta dernière demeure, ton guide vers l'au-delà, un souffle chaud, au relent de soufre, qui... Désolé, veuillez m'excuser, chers amis, cette histoire m'a inspiré ce début de poème. Avant d'en écrire la suite, je vais vous raconter une deuxième histoire. Elle s'appelle « Le sanatorium ». Commençons mon histoire par le début. Je suis malade, très malade. Pour me guérir, j'ai dû passer par plusieurs médecins, Les symptômes? Difficulté à respirer, anorexie, fièvre et sueur nocturne. Un jour, le verdict est tombé. Tuberculose pulmonaire. J'ai dû subir un lourd traitement d'antibiothérapie. Et comme ça prenait beaucoup trop de temps à guérir, selon les spécialistes, mes parents ont décidé de me faire entrer dans un sanatorium. Ils ont été conseillés par une amie de la famille qui avait une fille de mon âge, qui elle aussi avait les mêmes problèmes que moi. Elle s'en était sortie grâce au professionnalisme des médecins de ce sanatorium. J'étais jeune et j'avais toutes mes chances de guérir rapidement. J'étais soulagé de savoir qu'il y avait une solution à mon problème. Par contre, je n'avais aucun souvenir de la fille de cette amie. Ce dont je me souvenais sans aucun doute, c'était qu'elle avait perdu sa mère très récemment. De vieillesse, m'avait-on dit. Enfin, qu'importe. J'ai rencontré cette fille avant de partir de la maison. Elle m'a vanté les mérites du lieu. Chambre spacieuse, personnel à l'écoute, cadre idyllique. Je suis donc parti pour le sanatorium. Une fois là-bas, on m'a attribué une chambre, en me précisant que je ne serais pas seul, car au vu de la renommée d'établissement, beaucoup de gens venaient se faire soigner chez eux. Ils ajoutèrent qu'une nouvelle aile était en construction. Sur ce, je me suis installé dans le lit qui allait m'accueillir quelques mois. 5 tout au plus. En passant devant le lit déjà occupé de ma voisine de chambre, je fus submergé par un doux et agréable parfum de jasmin. Une odeur fraîche comme celle d'un champ, balayée par un vent de printemps frais et lent. Elle était allongée sur le dos et semblait dormir. Ses longs cheveux blancs reposant de chaque côté de son oreiller. Je me suis couché et je me suis endormi paisiblement. Le lendemain, un médecin est venu dans ma chambre afin de me faire une batterie de tests. Il m'a dit qu'au vu des résultats, j'allais guérir très vite, que j'étais de très bonne constitution et que j'allais être bien dans ce centre. J'étais tranquille et paisible, prêt à me remettre sur pied dès que possible. Jusqu'à la deuxième nuit, tout était idyllique. Cette nuit-là, une infirmière m'avait donné un tranquillisant pour que je passe une bonne nuit. Je me suis endormi à 20h et vers 4h du matin, j'ai entendu du bruit dans ma chambre. J'ai ouvert mes yeux et je me suis rendu compte que c'était la seule chose que je pouvais bouger. Le reste de mon corps était complètement figé. J'ai réussi à tourner mes yeux vers la source du bruit. Ce que j'ai vu m'a grandement surpris. La vieille dame qui partageait ma chambre était debout, près de moi, près de mon lit, et elle me regardait en souriant. Son doux parfum de jasmin me calma. Elle attrapa mon bras mou et le porta à sa bouche. Impossible de faire le moindre mouvement ou pousser le moindre cri. Elle croqua dans mon bras. En revanche, je ressentis la morsure. Douleur brûlante comme des centaines d'aiguilles chauffées à blanc. Je n'ai pas pu crier, j'en étais incapable. Mais des larmes coulèrent sur mes joues pour finir sur mon oreiller. Elle resta là, devant moi, pendant 5 longues minutes. Elle semblait aspirer mon sang. Quand elle eut fini, elle lâcha mon bras et retourna se coucher. Le mélange de peur et de douleur me fit tomber dans les pommes. Au matin, je me suis réveillé avec un soleil radieux traversant les vitres cristallines de la fenêtre de ma chambre. J'étais très faible. J'avais retrouvé le contrôle de mon corps, mais j'étais extrêmement fatigué. La première chose que j'ai faite, ce fut de regarder mon avant-bras. Et là où la vieille femme avait laissé un trou sanglant, il n'y avait plus rien. Aucune trace de morsure. J'avais fait un rêve, un mauvais rêve, voilà tout. Le médecin en chef conclut à une baisse de tension due aux médicaments que je prenais. J'ai dormi tout le reste de la journée. Je me suis réveillé vers 19h30 pour manger et prendre ma pilule du soir. Puis, je me suis endormi de nouveau. Vers 4h du matin, la vieille dame s'approcha du lit encore une fois. Encore une fois, elle saisit mon bras et encore une fois, elle croqua dedans pour boire mon sang. Encore une fois, je ne pouvais ni bouger ni hurler de souffrance. Et encore une fois, elle retourna se coucher une fois qu'elle eut fini. Le lendemain, épuisé. Il n'y avait toujours aucune trace de la nuit, ni sur moi, ni sur mon lit. Aucune goutte de sang, nulle part, Comment un rêve pouvait être identique à la nuit d'avant, et surtout, terriblement douloureux. La nuit suivante et celle d'après furent les mêmes. J'avais perdu beaucoup de poids. Étrangement, les médecins et infirmières qui venaient me voir tous les jours n'avaient pas l'air inquiets. Seuls mes parents étaient terrifiés de me voir ainsi, si maigre, si fatigué. Les deux nuits suivantes, tout recommença. Même peur, même vieille femme, même parfum de jasmin, même paralysie, même souffrance. Je me suis décidé d'en parler au médecin. Voilà une semaine que mes nuits étaient un enfer et aucun d'eux n'avait l'air de s'occuper de ça ou de s'en inquiéter. J'en ai parlé à mes parents. Ils ont essayé de régler cette affaire avec le corps médical, mais rien n'a changé. Rien à part un détail. La nuit suivante, à 4h du matin, une jeune femme aux cheveux châtains, longs et soyeux, s'est approchée de moi. Elle m'a posé un baiser sur le front et a disparu dans les ténèbres de la chambre. La seule chose qui restait dans la pièce, c'était une douce odeur de jasmin flottant dans l'air. Après ça, plus rien ne s'est passé. Toutes mes nuits étaient calmes. La vieille femme qui partageait ma chambre n'était plus là. Une infirmière faisait son lit. Elle m'expliqua qu'elle était partie. Enfin. Elle préparait la chambre pour une autre patiente. Celle-ci arriva 4 jours plus tard. Elle était dans le coma et plusieurs personnes durent la porter pour l'installer sur le lit qui lui était destiné. Moi, j'avais enfin repris du poids et je me sentais plus réveillé, moins fatigué. Et puis, pendant la nuit, après l'arrivée de la vieille dame, tout recommença. Celle-ci se levait pour venir vers moi. Moi, toujours paralysé, je la laissais contre ma volonté boire mon sang à même mon bras. Ça dura 4 nuits de plus, encore et encore toutes les nuits. Le 5e jour, totalement vidé de mes forces, incapable du moindre effort, j'ai décidé de me laisser mourir afin de ne pas continuer à vivre ce calvaire. Mais les médecins en ont décidé autrement. Ils me gardèrent en vie coûte que coûte afin que je continue à nourrir les nouvelles patientes. Ce matin, je suis là, allongé sur mon lit. Je ne suis que l'ombre de moi-même. La vieille femme n'est plus dans son lit. Une jeune femme portant ses traits est partie avec ses affaires. On prépare le lit pour une autre patiente. Je suis trop faible pour ouvrir les yeux ou bouger. Je suis étendu là, inerte, pesant à peine 35 kilos. J'ai du mal à respirer. Le médecin en chef est entré dans ma chambre. Il pensait peut-être que je dormais. Il m'a fait une piqûre. Sûrement des vitamines pour me garder vivant et me retaper un peu avant l'arrivée de la prochaine patiente. Juste avant de m'endormir de fatigue, j'ai entendu ces quelques mots. Expérience concluante. Patiente très riche. Traitement de rajeunissement. Sérum. ADN de sangsue. Cette histoire va à coup sûr vous donner à réfléchir. J'en suis persuadé. Pourquoi refuser un suppositoire plutôt que de suivre le traitement du sanatorium? Je vous laisse y méditer. En attendant, je vais vous conter une petite histoire d'Halloween. Un conte, une légende urbaine que j'ai intitulée « Le costume ». Cette nuit, une nuit noire et froide, les néons des rues sont encore allumés. Les quelques personnes encore dehors à cette heure-ci finissent de faire leurs courses, de rentrer à la maison avec leurs enfants sortis de l'école, de sortir leurs chiens pour leur promenade. Cathy, elle, sort du métro. Elle remonte les escaliers qui débouchent sur la rue. Elle peut, si elle le veut, prendre un bus qui la déposera devant chez elle, mais ce soir, elle ne le fera pas. Elle a envie de marcher, de prendre l'air, même si l'air de cette soirée est plutôt glacé. Elle ne retournera pas au travail demain. Fini pour elle. Elle a été remerciée par ses supérieurs. Restrictions budgétaires qui lui ont dit. Les seules pensées qui lui traversent l'esprit sur toute la durée du trajet furent le crédit de la maison, le financement de son mariage et les dires des autres. Elle craignit même que Paul, son fiancé, ne la juge. Elle est comme ça, Cathy. Elle est stressée et perfectionniste. Lorsqu'elle a annoncé la mauvaise nouvelle à Paul, il a essayé tant bien que mal de lui faire penser à autre chose. Il lui a promis que ce soir, il allait lui faire penser à autre chose. Elle en a de la chance. Paul est une crème, le meilleur fiancé qu'une jeune fille sensible et soucieuse peut espérer avoir dans sa vie. Toujours là pour elle, toujours souriant et attentif. Elle en a de la chance. C'est ce qu'elle se disait pendant qu'il la suivait. Elle était à mi-chemin de la maison. Leur pavillon de banlieue était situé dans une résidence très calme et loin du tumulte du centre-ville. Personne dans les rues. 20h30, elle n'avait pas vu les minutes passer. Derrière elle, quelque chose était là. Elle eut comme un frisson en bas du dos. Quelque chose qui la poussa à regarder derrière elle et à voir la forme humanoïde à quelques mètres d'elle. Elle accéléra le pas, puis se retourna une fois de plus. Qui que c'était, la créature lui fit un signe de la main pour lui faire « coucou ». Malgré le peu de lumière, elle distingua le visage déformé par un sourire monstrueux, encadrant deux rangées de dents aiguisées et démesurées. La créature était habillée de haillons, sales et tachés de sang séché. Il se mit à courir vers Cathy, comme ça, soudainement. Elle en fut surprise et eut du mal à respirer. Elle savait qu'elle devait courir elle aussi pour lui échapper. Pour survivre, elle se força à reprendre ses esprits rapidement et se mit à courir. Ses poumons étaient en feu. La créature la rattrapait à présent. Elle entendit son rire sonore perforer la nuit. Les larmes envahirent ses yeux, l'empêchant de voir devant elle. Alors, dans un élan de rage, elle se retourna vers le monstre au sourire grotesque et lui balança son sac à main au visage. Enfin, si on pouvait appeler ça un visage. Elle se rappela qu'elle avait mis dedans quelques affaires qu'elle avait sur son bureau. Une statuette assez lourde, représentant la statue de la liberté. Deux mugs offerts par ses collègues et tout le fatras qu'elle était capable de fourrer à l'intérieur. Le sac arriva dans le visage du monstre dans un bruit d'os écrasé. Brisée, la créature poussa un cri et tomba au sol. Elle se pencha sur lui et de rage d'avoir subi tant d'humiliation au boulot, elle se vengea sur cette chose qui lui voulait du mal. Enfin, c'était elle la menace, la plus forte, celle qu'il faut craindre. Au bout de 5 coups de sac, elle crut entendre son nom. 6 autres coups au visage et après un crack sordide et humide, elle s'arrêta. Elle se retourna et courut jusqu'à chez elle pour s'enfermer à double tour, pour accuser le coup de ce qui venait de se passer. Elle alluma la lumière de l'appartement et la première chose qu'elle vit, c'est une boîte ouverte sur la table du salon. Sur le couvercle, on pouvait voir une photo représentant un monstre. Le même qui la suivait quelques minutes plus tôt. Le même qu'elle a défoncé à coups de sac à main mortel. Une boîte contenant un déguisement pour Halloween. En ce 31 octobre, c'était normal. Oui, normal que Paul ait voulu se déguiser pour Halloween. Normal qu'il ait voulu lui faire une surprise pour lui changer les idées en achetant ce costume. dommage pour elle. Elle ne devait pas aimer les films d'horreur, sinon elle aurait couru dans les bras de son poursuivant. Enfin, avant de vous quitter brutalement, je vais vous partager une histoire qui m'a été envoyée par un auditeur. Il s'agit de Jerash Kit, alias Zachary. C'est sa première histoire horrifique, pleine de double sens. Alors frissonnez. Et encore merci à toi, Jerash Kit. Il se réveilla dans un lit miteux, sans drap ni oreiller. Où était-il? Que faisait-il ici? Qui était-il? Il ne se souvenait plus de rien, sauf d'une chose. Il devait retrouver ses amis. Il devait trouver des réponses. Il se leva et chercha des indices sur comment il s'était retrouvé ici. La maison était dans le noir complet. Il n'y avait pas de lumière, pas d'électricité. Il se dit que le courant avait dû être coupé. La seule chose qui l'éclairait, c'était la clarté de la lune qui passait au travers d'une lucarne. Il prit conscience qu'il était dans une grande cave. Il ne voyait quasiment rien, et il se dit qu'avec la luminosité actuelle, chercher des indices ne mènerait pas à grand-chose. Après de longues minutes à frôler les murs de ce sous-sol sordide, il trouva finalement l'escalier. Il l'emprunta et sortit de ce lieu sombre. Une bougie allumée se trouvait là, devant lui. Il la récupéra et se mit à chercher un accès vers l'extérieur. En avançant au gré des vacillements de la bougie, il fit face à une petite cuisine. À l'intérieur, le four béant était immonde, plein de croûtes et de souillures dont il ne voulait même pas connaître la provenance. Une odeur insoutenable lui emplit les narines. Elle semblait venir du frigo. Il ne l'ouvrit même pas et passa à son chemin. Il était maintenant dans la salle à manger. Sur la table se trouvaient des restes qui ressemblaient à des boues infâmes, amas de nourriture grotesque en état de décomposition avancée. Des larves et des mouches recouvraient presque entièrement les repas. S'il était possible de les appeler comme tels. Il rebroussa chemin en se couvrant le nez. Il lut alors sur un des murs une inscription qui disait « Ce sont mes amis ». Puis il reprit son périple à la recherche d'une quelconque sortie. En marchant, une pensée vint lui fracasser le crâne. Qui étaient ses amis? Pourquoi les cherchait-il? Il ne le savait pas. La seule chose qu'il savait en revanche, c'était qu'il devait les retrouver. D'ailleurs, qui avait écrit cette inscription? Était-ce un de ses amis? Était-ce la personne qui l'a emmené ici? De toute façon, pour le moment, se poser ce genre de questions ne servait à rien. Ensuite, il passa à la salle de bain, une des dernières salles du rez-de-chaussée. Elle était tout près du salon. Une odeur encore plus forte que la précédente et absolument horrible lui brûla les sinus. Il posa ses mains sur sa bouche avant de vomir abondamment sur le sol. Ça sentait la décomposition, mais en bien pire que dans la salle à manger. Après une certaine hésitation, il ouvrit la porte de cette salle de bain. Des excréments et des tripes remplissaient la baignoire. Il se remit à vomir de plus belle. Il n'en pouvait plus. Il était dans une maison de fous, dans l'antre d'un sauvage. Il devait partir le plus vite possible. Paniqué, il se dépêcha de sortir de la salle de bain et retourna dans le salon. Après tout, il y avait probablement une baie vitrée. La porte coulissante était verrouillée. Il repéra alors une porte à côté de celle menant au salon. Il l'ouvrit et il vit un escalier montant certainement à l'étage. Il monta péniblement l'escalier et vit deux salles. Il entra dans la première et tomba sur une chambre un peu plus normale. Au fond se trouvait un lit. Il ne prit même pas la peine de fouiller les tiroirs de la commode placée à côté. Il fallait qu'il trouve la clé de la baie vitrée du salon, et vite. Il avait le sentiment que le salon était la solution à son problème. Il entra dans la deuxième pièce et trébucha sur un objet posé au sol. Au son, il se dit que c'était peut-être un bout de bois. Il hurla lorsqu'il vit que c'était un os. Cette ancienne chambre d'amis ressemblait à une boucherie. C'était désormais une sorte de chambre de torture. Des bacs d'acide se trouvaient au fond de la pièce. On pouvait presque dire qu'il était dans une chambre froide d'un boucher, au vu de toutes ses cuisses suspendues au plafond. C'en était trop pour lui. Il s'évanouit. En se réveillant quelques heures plus tard, il se remit à paniquer, puis s'efforça à se concentrer pour se dépêcher de sortir de cette maison cauchemardesque. Il regarda dans un des bacs d'acide et aperçut dans le fond de celui-ci une clé. Il n'avait pas le choix. C'était son seul moyen de survie. Il plongea sa main dans le bac et récupéra la clé. Son bras le faisait atrocement et affreusement souffrir. Mais au moins, il avait la clé, celle de sa liberté. Il courut vers le salon, glissa la clé dans la serrure et déverrouilla la porte coulissante de verre. Il passa dans la véranda et pleura de joie. Là, devant lui se trouvaient des tas de cadavres. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants et même des vieux, tous morts. Soudain, tout redevint clair dans sa tête. Il retrouva ses souvenirs. Il était tellement heureux. Il sauta dans la pile de corps décharnés. Il n'avait plus envie de sortir à présent. Cela n'avait plus d'importance, maintenant qu'il était parmi ses amis. Vous venez d'écouter Creepy Story. Ce podcast est écrit, enregistré, monté et produit par moi, Dan, via La Sentence Prod. Si mes histoires vous ont plu, alors n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille, sans pour autant leur faire peur, bien sûr. Ça donnera au podcast plus de visibilité. Vous pouvez retrouver tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, telles que Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Castbox, Overcast ou encore. N'hésitez pas à me laisser une note ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Je dois vous avouer, comme à chaque fois, que ça me fait toujours plaisir. Retrouve-moi aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Podcast Creepy Story, et sur Instagram, à Dan the Creepy. Et voilà, mes très chers amis, adorateurs de frissons et d'histoires d'horreur. Cette deuxième saison prend fin ce soir. Un grand merci à vous de m'avoir suivi durant cette année, de m'avoir envoyé des messages pour partager avec moi votre ressenti sur Creepy Story. Ce podcast que je crée avec le plus grand plaisir, et ce rien que pour vous. Vous me donnez à chacun de vos commentaires la force et l'envie de continuer. Vous pourrez retrouver votre podcast préféré de le mois de janvier. Je vous prépare quelques surprises, de nouvelles histoires, et une fiction en 10 parties qui, je l'espère du fond de mon cœur desséché, vous plaira énormément. Vous pouvez aussi découvrir mes autres podcasts. Des balades dans ma tête et On est de la street. Ils sont en description de cet épisode. Ainsi, vous pourrez en apprendre plus sur moi et sur mon univers. Allez, je vous libère de mon emprise. Vous pouvez sortir de ma crypte, reprendre une vie normale. Et je vous donne rendez-vous très vite. Avec des histoires qui, vous le savez aussi bien que moi après tout. À bientôt.